Carnet campagne, bonjour. Dernière des carnets dans le département du Rhône avant d'aborder une première partie de la Bourgogne demain avec la Côte d'Or. Depuis plusieurs semaines, nous recevons des informations de la communauté de communes de Tarare. Tarare se situe à mi-hauteur de la carte entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. La communauté, la ville, la CCI de Lyon, donc la Chambre de commerce et d'industrie, et la Chambre d'agriculture du Rhône mettent au point ensemble un pôle d'écologie industrielle. Ce concept que nous risquons de rencontrer de plus en plus souvent est parti d'un diagnostic économique du territoire réalisé en 2006. Là, sur le diagnostic, rien de neuf, ou de surprenant en tout cas, à savoir une évidente disparition des grandes entreprises, principalement textiles, locales, et une inconnue, comment redynamiser un espace frappé depuis longtemps par la crise. Des partenariats ont alors été engagés entre les dernières entreprises existant sous cette portion de département, les industries de la filière textile, celle de la filière bois-construction et celle de la filière agroalimentaire. Et c'est sur cette dernière que les efforts se sont concentrés afin de développer un réseau économique plus respectueux de l'environnement, de la nature et tenant compte des savoir-faire locaux, d'où le nom donc de pôle d'écologie industrielle. La communauté a donc avancé un plan d'action répondant au nouveau pôle d'excellence rurale à partir de trois premières entreprises. Illustration, une microbrasserie s'est implantée ici et les déchets seront valorisés par une autre dans le cadre d'un maraîchage et ensuite par une troisième entreprise, laitière en l'occurrence, dans une unité de méthanisation. Et enfin, les résidus de cette unité alimenteront une plateforme de compostage de la communauté de communes. Cela peut paraître compliqué, présenté aussi lapidairement, mais il faut comprendre que les déchets sont exploités au maximum et en commun, à l'image des productions aussi, qui se complètent les unes avec les autres. Plus tard, il sera question de nouveaux axes économiques, horticoles par exemple, toujours sur la communauté de communes de Tarare, et d'un regain de l'agrotourisme. Au sommaire, une revue très professionnelle malgré ses moyens ridicules. Silence est un mensuel de belles factures qui traite de dossiers voisins de ceux des carnets, solutions alternatives, économie verte, agriculture biologique ou éducation. Michel Bernard, rédacteur de Silence, va répondre à nos questions dans un court instant. Yves Bonnet, quant à lui, est un digne représentant d'une viticulture diversifiée mais souvent occultée par le fameux Beaujolais nouveau. Sorti de ce grand étalage traditionnel annuel, le système D est de mise. Yves a choisi de créer une petite entreprise de spectacle sur son domaine. Il sera notre second interlocuteur.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Michel Bernard, bonjour.
Bonjour.
Michel, rédacteur d'un magazine que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines, Silence. Faire un magazine qui s'appelle Silence, ça peut paraître contradictoire. Vous êtes plein de paroles à l'intérieur de ce magazine.
Oui, c'est une revue qui est née juste après l'arrêt de la publication d'une autre revue qui s'appelait La Gueule Ouverte. Ça a été une sorte de contre-pied. Et en plus, La Gueule Ouverte avait un ton assez offensif et nous, on se voulait plus de la mouvance non-violence. Et Silence, ça rime aussi avec non-violence.
Aujourd'hui, est-ce que Silence fait du bruit ?
Ben, on espère, oui, de temps en temps. On voit que des reportages qu'on a fait chez nous sont reproduits dans d'autres revues ou sur d'autres médias. Donc ça, c'est plutôt bon signe.
On vous sent proche des carnets de campagne, ou alors nos carnets se sentent très proches de Silence, parce qu'on y parle des initiatives écologiques, des alternatives, effectivement de la non-violence aussi. Alors il est question de santé, il est question d'énergie, très souvent, de société, d'autres modes de vie, avec un dernier numéro consacré aux femmes.
Là, c'était parce que c'était le numéro de mars, donc c'est la Journée internationale de la femme. On a fait une enquête auprès d'élus, avec un E, sur comment la parité était vécue dans les institutions au niveau des régions, des départements et des communes. Et on a eu un certain nombre de réponses, surtout, on va dire, d'élus de gauche, qui nous ont surtout montré qu'il y avait un discours et que la pratique était beaucoup plus difficile. Il y a souvent des très beaux textes qui existent dans les institutions, mais sont difficilement mis en application dans le quotidien.
C'est un énorme travail mensuel, parce qu'il y a énormément d'articles, il y a des agendas. Pourtant, vous n'êtes que 4 salariés et il y a énormément de bénévoles qui interviennent.
Oui, on est sous forme associative. Donc il y a effectivement 4 salariés, mais des gens qui écrivent. Pour nos 20 ans, on avait compté qu'il y avait déjà plus de 1000 personnes qui avaient eu leur nom dans la revue. Et c'est vrai que globalement, on tourne avec 200 à 300 personnes qui nous aident à un niveau ou à un autre. Oui.
Alors en faisant appel aux bénévoles, on peut avoir de mauvaises surprises, un article mal écrit, mal conçu ou mal informé.
Oui, bien sûr, on en refuse beaucoup d'ailleurs. C'est toute une question de diplomatie, mais en gros, il y a un comité de rédaction là, qui se réunit sur chaque numéro. Il y a 3 salariés dedans et 3 bénévoles. Et en plus, on a ce qu'on appelle des pilotes de rubrique, c'est-à-dire des gens qui sont un peu spécialistes dans leur domaine et à qui on soumet des textes lorsqu'on a des questionnements et ils peuvent nous faire des commentaires ou améliorer le texte en fonction de ce qu'on demande. On a quelqu'un de Météo France, par exemple, qui relie tout ce qui est sur le climat.
Oui. Alors, Michel, autant votre champ d'investigation et d'information est large, autant votre fenêtre de distribution est étroite.
Oui, parce qu'on a fait le choix de ne pas être en kiosque. Pour des raisons à la fois financières et aussi d'économie de papier. Et donc, on est surtout vendu sur abonnement et puis dans 200-300 points de vente qui sont les magasins bio, les magasins de commerce équitable et des librairies engagées, on va dire.
Vous connaissez vos lecteurs ?
On fait une enquête tous les 5 ans justement pour savoir. Et là, on est en plein retour de questionnaires sur nos lecteurs. Il est plus rural que la moyenne des Français. Ça, c'est une chose. Il y a eu un moment où on avait un électorat qui était relativement vieillissant, et puis là, depuis en gros une dizaine d'années, avec l'arrivée du mouvement altermondialiste, là, on a beaucoup rajeuni notre électorat. Et on a beaucoup de gens qui sont des jeunes qui se lancent dans des alternatives et qui essayent de créer leur métier dans des choses différentes.
Mmh. Je suis sensible à votre démarche. Je vous entends aujourd'hui, Michel, j'ai envie de vous proposer un dossier ou un article. Que dois-je faire ?
Il faut d'abord nous envoyer l'idée du dossier ou de l'article. Et après, généralement, on a un échange, soit par téléphone, soit par courriel, sur le contenu. Et puis, une fois qu'on a calé un peu les idées, après, les gens nous font... Des fois, on passe par un plan détaillé, des fois pas. Des fois, les gens écrivent directement. Et après, il y a 2-3 allers-retours avec le comité de rédaction. C'est-à-dire, pour un dossier, par exemple, on s'y prend longtemps à l'avance. Là, actuellement, on est en train de discuter déjà d'après l'été. Pour les articles, ça va un peu plus rapidement. Et pour les brefs, généralement, c'est nous qui rédigeons. C'est-à-dire, les gens nous envoient simplement des informations et c'est nous qui faisons la rédaction rapidement.
Donc, malgré ces interventions extérieures bénévoles, vous parvenez à avoir un vrai programme éditorial sur un horizon assez lointain.
Là, les fameux pilotes de rubrique dont on vous a parlé, on les réunit 2 fois par an. Et là, on discute en gros des sujets qui seraient bien d'aborder dans les... Alors non pas dans les 6 mois après, parce qu'on est décalé dans la programmation, mais les 6 mois suivants. Et à partir de là, souvent ça se concrétise, et puis des fois ça se perd en route parce qu'on ne trouve pas la personne pour rédiger. Mais on essaye d'avoir ce retour-là. Et puis c'est vrai que par les courriers des lecteurs aussi, ça donne des idées, des indications. Bon, puis nous, on est aussi dans d'autres associations et on voit bouger des choses... Ça donne aussi des idées de thèmes.
Et grâce à vous, j'ai fait une première radiophonique, c'est de faire parler le silence.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment une révolution. Revue silence, toutattaché.net pour l'adresse du site. Un grand merci, Michel Bernard, et bravo pour votre travail.
Oui, au revoir.
Au revoir. Yves Bonnet, bonjour.
Bonjour, Philippe Bertrand.
Merci Yves pour votre courrier qui stipule que vous êtes vigneron dans le Beaujolais. Le plus souvent possible d'ailleurs avec France Inter dans les oreilles. Merci beaucoup. Vous cultivez seul 9 hectares de vignes et c'est pas le bonheur assuré tous les jours. Depuis le début des années 2000, il y a une véritable crise viticole. Alors, quand on parle de Beaujolais, on pense tout de suite au Beaujolais nouveau. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que la réalité du Beaujolais est bien au-delà.
Et bien entendu, seulement en matière de communication, l'effet Beaujolais nouveau a été tellement retentissant qu'il a un peu masqué toutes les gammes de vins que nous avons autour. Ça nous a quand même beaucoup pénalisés.
On juge mal votre production, on l'associe à un vin de consommation directe comme le Beaujolais nouveau ?
Le Beaujolais, de toute façon, ça a toujours été un vin de comptoir. Historiquement, on s'est toujours retrouvé sur les stades boulistes à Lyon. Disait que le Beaujolais était le troisième fleuve qui irriguait la ville de Lyon.
Oui. Aujourd'hui, la réalité de votre production ?
Alors, c'est toujours encore en partie importante le Beaujolais nouveau, sauf que ce produit étant un peu rejeté par le consommateur, trouve moins sa place sur le marché, donc on en commercialise de moins en moins. Et donc, il nous faut redévelopper toute une énergie sur les gammes de produits autour de notre appellation, c'est-à-dire les Beaujolais génériques qu'on commercialise tout au long de l'année. On fait des Beaujolais rosés, des Beaujolais blancs qui, jusqu'à présent, n'étaient pas très courants sur notre appellation.
Et vous avez décidé, en complément, d'ouvrir votre domaine et d'en faire régulièrement un lieu d'accueil, un lieu convivial et surtout un lieu de spectacle.
Alors, effectivement, suite à cette crise qui nous a touchés très fortement sur le plan économique, il nous a fallu rebondir parce qu'on vendait beaucoup notre vin aux négoces. Et pour rebondir, il nous a fallu aller au contact des consommateurs directement. Et pour les attirer, sur notre exploitation, on a quand même trouvé une solution qui était d'organiser des spectacles. On a démarré un petit peu en accueillant des ateliers de poterie, plusieurs choses comme ça, et on s'est rendu compte que la communion entre l'art et le vin et la convivialité était un élément porteur.
Et résultat est né comme chez soi.
On a une grange qui était disponible et qui ne demandait qu'à servir, dans laquelle on a fait quelques travaux, et on s'est dit pourquoi pas recevoir, toujours dans le lien de la culture et de l'art, des musiciens, des ateliers de théâtre, des groupes vocaux de toutes sortes. Et en ça, je suis largement aidé par mon épouse, Paul, qui, elle, est musicienne intervenante au Conservatoire de musique de Villefranche et qui a donc un réseau autour d'elle qui est très porteur. Mmh.
Qui vient assister au spectacle comme chez soi, chez vous, au domaine de Hans, puisque vous êtes à Hans, dans le Rhône, est-ce qu'il y a vraiment, vraiment des conséquences et des bénéfices?
Dans l'immédiat, on ne peut pas complètement les mesurer. Pour l'instant, ce n'est pas très lucratif, mais on a un retour très positif sur les gens qui viennent participer. Et on en a pour preuve, c'est qu'à chaque spectacle qu'on organise, la salle est complète presque à chaque fois. Mmh. Alors le retour économique, eh bien, je pense que ça va être en faisant connaître notre vin, parce qu'au cours de ces soirées, on sert un apéritif vigneron qui est fait de produits fermiers, de producteurs des alentours, accompagné de quelques verres de vin Beaujolais en dégustation.
Moi, j'ai trouvé un slogan, du bon, du bonnet.
Effectivement, on m'avait déjà offert la petite ancienne pub qu'on voit encore.
Je vois sur votre site, Yves, l'improvinisation.
Oui, alors ça, c'est un événement qu'on a conduit avec le Conservatoire de Villefranche, justement, où il y avait une semaine d'improvisation, de la création autour de la musique. Et des collègues de mon épouse, qui sont professeurs de musique, m'ont dit « mais on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose autour de la vigne et du vin ». Donc moi, j'ai sur une parcelle que je suis en train de changer, j'ai prélevé quelques pieds que j'ai installés pour miner la taille et expliquer la taille et la culture de la vigne tout le long de l'année. Et avec ça, j'avais invité un ami œnologue qui est venu commenter une dégustation. Par la même occasion, nous avions les musiciens qui nous faisaient un petit commentaire musical. On va dire.
Et une dernière chose, Yves, est-ce que vous reconnaissez, dans ceux que vous appelez, que vous défendez avec justesse, les intermittents du spectacle, entre le viticulteur et l'artiste, il y a des points communs?
Je crois qu'aujourd'hui, on est en tous les cas dans une situation de se réinventer et de redécouvrir des choses. Et le lien se fait bien avec les intermittents du spectacle, parce que finalement, on se retrouve sur un terrain d'égalité. Et puis, on sent chez eux aussi une grande solidarité. Donc, on est très content de travailler avec eux.
J'aime bien l'esprit en tout cas qui se dégage du comme chez soi et ça éveille tous les plaisirs de l'esprit et des papilles. Merci beaucoup Yves Bonnet pour les informations. C'est beaujolais-yves-bonnet.fr, adresse que vous avez retrouvée à notre page comme toujours. Merci Yves.
Et merci beaucoup Philippe Bertrand.
Les sports de glisse sont légion, de l'eau à la neige, parfois même en passant par les airs. Certains sont hybrides en associant plusieurs compétences comme le kitesurf, une petite planche de surf et une aile, un petit parachute si vous voulez, kite. La pratique a à peine 20 ans et hélas déjà quelques accidents mortels. D'autres traumatisants à vie. Un petit gars du Rhône, Bastien Perret, en a fait les frais. Sportif de toute l'église, d'une nautique aux pentes enneigées, Bastien s'accroche aux efforts tel un professionnel. Entre parenthèses, il était pisteur secouriste de métier. Jusqu'à une mauvaise rafale sur les côtes de Hyères, dans le Var, à l'âge de 27 ans. Le kite l'entraîne dans le décor, blessant gravement deux personnes et lui interdisant dorénavant l'usage de ses jambes. Pourtant, après deux courts mois de rééducation, Bastien reprend les défis, non plus debout, mais assis. Ski nautique, kitesurf, toujours, alpiniste, freeride, handiski. Il crée dans l'élan son association Magic Bastos. Il y a un site, c'est www.magicbastos.com. Le G de Magic est désormais un fauteuil roulant. Il propose en prêt du matériel handisport, donne des conseils, surtout des envies, photos et vidéos en attestent sur son site. Et puis il soutient les défis des sportifs cassés comme lui. Il en invite aux plus grandes compétitions, entre autres de freeride. Et entre-temps, il participe aux X Games, les Jeux Olympiques de l'extrême à la plagne. Il descend le Kilimanjaro, il gravit une pointe de 3400 mètres en Argentine. Bastien Bastos à la pêche et distribue les sourires, même aux valides. Allez sur son site, c'est plutôt encourageant et ça fait du bien. Juste avant de nous séparer, vous savez que les semaines prochaines, nous serons en Bourgogne, en Côte d'Or à partir de demain, ensuite en Saône-et-Loire et dans la Nièvre. Vous pouvez nous écrire concernant ces départements. Et puis surtout la Grèce. Ensuite, amis de Grèce, français de Grèce, grecs de France, n'hésitez pas à nous écrire à Saint-Genis-Laval. Nous attend Nicolas Soufflet pour le jeu des 1000 euros.